Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler d'un autre pionnier de la thérapie familiale qui s'appelle Bosromenié Nagy, qui est d'origine hongroise, qui est né en 1920, qui est psychiatre, biochimiste, physicien et qui a quitté la Hongrie en 1948 et a émigré aux États-Unis en 1950. Son père était juge, c'est intéressant aussi pour voir ce qui va l'occuper. Et donc après, voilà, il a dû quitter sa famille d'origine quand il a fui le régime communiste. Il a donc connu deux régimes totalitaires, le nazisme et le communisme, dans sa vie. Alors pour Nagy, au cœur de l'humain, il y a un besoin de donner pour sentir qu'on existe pour l'autre. Il y a un besoin de recevoir en retour. Et pour lui, la solitude, c'est n'exister pour personne. Et la pire torture qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de le priver de donner. Ça, c'est vraiment au cœur de ses convictions. Et il va développer aussi des exemples pour expliquer comment l'être humain qui est confronté à la solitude va créer un autre pour pouvoir continuer à vivre. Donc par exemple, il le soume dans un camp de concentration, sa vie spirituelle, ce dialogue avec Dieu va être une façon de continuer à donner alors qu'elle peut être coupée d'autres. Ingrid Betancourt aussi, pour ceux qui ont lu son livre « Même le silence a une fin », moi ça m'a beaucoup touchée la façon dont elle passe énormément de temps à construire des cadeaux d'anniversaire en tressant des lianes pour ses enfants alors qu'elle est prisonnière des FARC. Elle sait qu'elle ne pourra pas donner ses cadeaux, mais elle prépare des semaines à l'avance des cadeaux pour ses enfants. Donc un lien intérieur et en même temps matériel lié à ce besoin de donner à ceux qu'on aime. Alors, ces relations qui fondent notre existence, Nagy va les regarder avec un angle de vue nouveau, qu'il va appeler l'éthique relationnelle ou l'approche contextuelle. Alors, pour rappel, la systémique se fonde sur une manière de regarder les groupes humains et les relations humaines à partir de différents points de vue qui ne sont pas en conflit les uns avec les autres. On a vu déjà le point de vue de Bowen avec la différenciation, on a parlé un peu du mythe familial qui est le point de vue des constructivistes avec Neuburger. Ici, on est dans cette nouvelle approche de Nagy. Donc vous allez entrer dans un nouveau langage avec moi. Alors ne vous effrayez pas, aujourd'hui ça va être un peu dense, mais on aura l'occasion d'y revenir avec le film, avec d'autres exemples. Alors, première chose qui est importante, c'est que Nagy distingue système et contexte. Alors, le système, ce sont les relations réelles dans lesquelles nous sommes impliqués. Le système familial, voilà, c'est l'ensemble des interactions dans la réalité avec les personnes avec qui nous vivons. Par contre, le contexte est beaucoup plus large que le système. Il comprend l'ensemble des relations réelles, visibles, et des relations aussi invisibles, par exemple avec les défunts de notre famille, ou aussi par rapport à d'autres personnes envers qui nous nous sentons en dette et envers qui nous sommes pris dans une relation de loyauté. Par exemple, en tant que chrétienne, je n'aurai sans doute jamais de relation réelle avec le pape, mais je me sens en dette vis-à-vis de lui parce qu'il m'apporte quelque chose. Donc voilà, ça c'est ce sont des relations qui vont nous impliquer dans un système de loyauté. J'imagine que Bernard, comme jésuite, se sent en dette par rapport à Ignace de Loyola. Voilà. Et voilà, ces relations dans lesquelles va s'exercer aussi la loyauté, on va définir la loyauté plus tard, vont jouer un rôle dans notre possibilité justement de donner. Alors, les sources de l'approche contextuelle sont l'observation clinique, même si l'auteur va utiliser certains philosophes pour aider à penser un chemin thérapeutique, l'objectif est bien la thérapie et la source de ces observations est bien la clinique psychiatrique. Alors, toute son observation va se déployer autour de l'impact dans les relations intimes d'une certaine norme de justice qui est liée au vécu d'une réciprocité positive ou négative des relations autour de la question du don. Hein? Donc on a tous une norme intérieure de ce qui est juste ou pas juste. Mais lui, il va essayer de réfléchir à comment ça se construit, cette norme, cette impression de justice dans les liens en famille. Donc ce n'est pas la somme de notre sentiment de justice ou d'injustice individuelle, c'est la possibilité de construire ensemble, en dialogue, une norme de justice qui va être en position de tiers pour toute la famille. Donc ça, c'est vraiment le cœur de sa pensée, c'est ce travail de co-construction de cette justice dans les familles. Alors pour ça, il faut construire avec la famille une histoire commune, perçue comme vraie, un récit des faits relationnels qui ne se réduit pas à la somme ou à la juxtaposition des vécus individuels. À partir de ce récit commun construit ensemble, dans une famille ou dans une congrégation religieuse, on peut définir alors les droits et les devoirs de chacun, les obligations mutuelles. Alors Pierre Michard, qui est un psychanalyste philosophe qui est devenu thérapeute contextuel, écrit dans son livre, en citant Mauricio Andolfi, qui est un autre systémicien, Andolfi écrit « La plupart des gens disent pendant des années à des amis, des thérapeutes, des conjoints, ce qu'ils auraient dû dire à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, afin d'évacuer la colère et l'amertume dans la confrontation avec ces personnes. Car ce n'est qu'à cette condition de dialogue qu'il devient possible de percevoir les autres comme des personnes réelles. Sinon, on parle de ce qu'on imagine que l'autre est à une tierce personne. Mais on ne peut pas faire ce travail justement d'éthique relationnelle et de s'ouvrir à la perception de l'autre. Alors, toujours Pierre Michard nous relate une séance de thérapie familiale avec deux ados qui se plaignent des colères de leur père. Et le père des deux adolescents raconte en séance un drame de son enfance. Il a 8 ans à ce moment-là, il est en dispute avec son papa, il refuse de sortir de la voiture, le père se met dans une colère noire, il sort de la voiture, il claque la porte, il laisse l'enfant dans la voiture, il crie, il traverse la rue et puis il se ravise et il revient vers l'enfant, sans doute pour l'obliger à sortir de la voiture, mais à ce moment-là, il est renversé par une voiture, il est tué sur le coup. Bon. Pour l'enfant survivant, la réalité ne s'arrête pas à ce traumatisme qui va produire un sentiment de culpabilité énorme. Si on travaille ça en thérapie individuelle, il y a quelque chose qui va se rétrécir. C'est important de faire ce travail en individuel sur la culpabilité, sur la colère, parce que tout d'un coup, cet enfant était en colère contre son père, et voilà que son père meurt dans la réalité. Mais ce n'est pas la colère de l'enfant qui a tué le père. Mais en même temps, ça se colle dans le sentiment de culpabilité, et on peut ramer pendant longtemps en thérapie individuelle autour de cette question-là. Donc, il n'y a pas que ça à travailler. Un thérapeute contextuel, il va dire, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé après? À qui vous avez pu parler? Qui vous a porté secours? Qui vous a fait des reproches? Comment vous avez fait dans la relation avec votre maman? Est-ce que vous avez pu l'aider? Et les autres frères et sœurs? Comment vous avez pu les aider? Qui vous a aidé? Comment est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui la violence de votre père? Et actuellement, comme papa, comment est-ce que vous protégez vos enfants de vos propres colères? Comment est-ce que vous voyez les conséquences de votre histoire personnelle pour vos propres enfants? Et pour votre épouse? Est-ce que ça a des conséquences? Etc. Donc, on élargit le champ pour que la personne puisse se remémorer aussi tout ce qu'elle a reçu comme aide à ce moment-là, d'autres personnes. Et tout ce qu'elle a pu donner. C'est toujours centré sur le don. Donner, recevoir. Alors pourquoi on fait ce travail? Parce qu'à un moment donné, dans la thérapie familiale, les deux ados disent à leur père, écoute, papa, c'est terrible ce que tu as vécu, mais ça ne te donne pas le droit d'être violent avec nous. Alors, le père répond, oui, mais je le suis moins que mon père ne l'était avec moi. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent hein, dans la manière dont la justice se vit dans les familles. Si on a eu un père très violent et qu'on fait mieux que lui, eh bien on peut avoir l'impression qu'on a progressé et que donc c'est pas grave. Mais évidemment les enfants vont pas le vivre comme ça. Hein, et donc cette parole partagée va permettre de construire avec la famille une norme de justice et une légitimité qu'on va appeler constructive, parce qu'ici, ce père de deux adolescents rétablit la justice par rapport à son propre père en se justifiant lui-même, en disant « j'ai le droit d'être violent puisque c'est moi que mon propre père hein ». Voilà. Et donc là, on va parler de légitimité destructive. Rétablir la justice, c'est légitime, mais on peut le faire en aggravant le problème dans les relations. Hein. Et Nagy essaye de passer de cette légitimité où on continue à détruire à quelque chose qui va construire des liens positifs. Alors, la réalité psychologique et relationnelle pour Nagy se définit autour de quatre axes. Il y a l'axe des faits, l'histoire, les événements de la vie, la santé, la psychologie individuelle, hein, tout ce que la psychanalyse nous a appris sur l'inconscient, les défenses, la force du moi, l'intelligence, la dimension systémique, qu'on a déjà travaillé ensemble, les alliances, les appartenances, la différenciation, la communication, les frontières, etc. Et l'axe qu'il va développer de l'éthique relationnelle, qui est la confiance relationnelle quand tout va bien. Alors, revenons à cette question de la balance de justice. Pour que tout aille bien dans une famille, il faut que la balance de justice soit équilibrée. Il faut un équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Alors au début, Nagy utilisait une autre métaphore. Il avait commencé à travailler avec l'idée du grand livre des comptes. Dans une famille, on garde la mémoire de ce qui a été donné, de ce qui a été reçu, etc. Mais cette métaphore-là ne fonctionnait pas au niveau clinique, parce qu'elle est statique. Hein, on faisait la somme de ce qu'on a donné individuellement, etc. Ce n'était pas un outil qu'on pouvait utiliser en relation. Et donc, il a pris l'image de la balance de marché avec les deux plateaux. Et on construit ensemble, en thérapie familiale, on met des faits dans la balance. Hein. Donc, la parole qui va être échangée ne va pas chercher à établir une vérité objective, mais à essayer de tenir compte dans cette notion de justice du point de vue de l'autre. Hein? Moi, j'estime que mon frère me doit des choses, mais lui, il me rappelle qu'en fait, oui, c'est vrai, il a une dette par rapport à moi pour ça, mais pour d'autres choses, j'ai oublié qu'il m'a quand même donné ça, 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 et qu'à tel moment de ma vie, il m'a rendu des services, etc. Donc, c'est ensemble qu'on va élargir la mémoire et se souvenir de certains faits qui ont été oubliés. Donc, on construit ensemble une éthique relationnelle qui va donner, quand ça marche, un sentiment d'équité dans la famille. Il ne s'agit pas de loi, de morale ou de règles. Balance de justice équilibrée, ça donne un sentiment d'équité et de bien-être relationnel, vous avez ça sur la feuille de route. Ce qui permet une confiance réciproque, ce qui permet une légitimité constructive, une spirale du don dans le sens positif, ce qui va permettre l'exercice de la loyauté. Alors, la loyauté, c'est l'engagement que nous prenons de venir en aide à ceux qui nous ont aidés. C'est une reconnaissance de dette par rapport à ceux qui nous ont donné et c'est un désir de donner en retour. C'est un choix relationnel. On est parfois dans des conflits de loyauté où on doit choisir quelle relation on va privilégier. La loyauté la plus importante est la loyauté verticale, la loyauté des liens de sang. Les liens de sang sont toujours plus importants que les liens d'alliance. Et donc s'il y a un conflit de loyauté entre liens de sang et liens d'alliance, c'est les liens de sang qui vont avoir priorité. Et donc, dans un couple, si l'un des conjoints ne permet pas à l'autre d'exercer sa loyauté par rapport à la famille d'origine, le couple est en danger. Hein? Ça va être un élément important. Donc si un des deux conjoints n'a plus de parents et veut partir aux États-Unis, mais que l'autre a encore une famille ici, et que, voilà, et que une des personnes du couple ne peut plus exercer sa loyauté par rapport à sa famille d'origine, si elle ne trouve pas une manière d'être juste envers ses parents en partant aux États-Unis, le couple risque d'être en grande difficulté. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de renoncer à cette loyauté dans les liens de sang. Alors pour Nagi, la loyauté n'est pas du tout une toile d'araignée qui nous emprisonne, mais c'est un filet de sécurité. Il parle du filet de sécurité de l'acrobate qui lui donne sa liberté de marcher sur un fil. La loyauté est un réseau d'alliances. La balance de justice ne fonctionne pas de la même manière dans la société et dans les familles. Dans la société, si je vais chez l'épicier, je prends des légumes, je vais directement payer ma dette avec de l'argent. Dans les familles, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai reçu l'avis de mes parents, je paye ma dette en devenant maman, par exemple. Je peux avoir l'impression d'avoir payé ma dette en donnant moi-même l'avis. On peut donner autre chose que ce qu'on a reçu. Alors la loyauté familiale existe chez tous les êtres humains, mais elle va se jouer autrement suivant les cultures et suivant les religions. On verra ça dans le film « Ne m'abandonne pas », à quel point les phénomènes de loyauté vont jouer aussi dans ce phénomène de radicalisation de cette adolescente. Alors tout ce que j'ai dit jusqu'à présent concerne ce cycle du don dans la réalité et donc concerne la justice rétributive, comme l'appelle Nagi. Mais il y a aussi un autre élément de justice distributive qui va intervenir dans ce phénomène de dette et de loyauté. Et ce que Nagi appelle la justice distributive, c'est le destin. Et ça ne dépend pas de la relation. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer comment cette justice distributive a une influence sur la balance de justice dans les familles. Donc c'est une famille que je vois avec deux enfants, Laure et Anna. Laure a 8 ans, Anna 6 ans. Madame au départ vient avec Laure parce qu'elle est en échec scolaire et qu'en plus elle fait des colères, elle n'obéit pas, elle se bloque dès que sa mère lui fait une remarque. Elle souffre de dyslexie, mais elle a une intelligence nettement supérieure à la moyenne et sa dyslexie n'explique pas son échec scolaire. Il y a autre chose qui se passe. Je propose un travail en famille pour travailler sur les relations et puis on verra si une prise en charge individuelle est nécessaire ou pas. Alors, lors de la première séance où tout le monde vient, je pensais travailler sur voilà, l'obéissance, les règles, le tiers, etc. Mais il se passe tout à fait autre chose. J'avais donc invité Anna aussi, la petite sœur, à qui j'avais dit, ben, puisque toi, maman, dit que tu n'as pas du mal à obéir, tu vas nous expliquer comment on peut obéir sans être malheureux. Donc ça, c'était mon plan, mais il se passe tout à fait autre chose. Madame arrive en colère contre la petite sœur de Laure, Anna, et elle raconte qu'en fait, à la sortie de l'école, Anna avait oublié son manteau et qu'elle lui avait dit « va vite le chercher ». Ils étaient pressés pour venir justement à la séance de thérapie. Et puis la maman ne vérifie pas, tout le monde s'en va. Et puis arrivée à mon bureau, la maman constate que en fait Anna est revenue avec le pull de Laure et pas avec son manteau. Et elle est dans une colère noire. Bon. Alors Anna trouve que c'est très injuste et elle boude et le papa se fâche sur la maman en disant « Écoute, c'est parce que tu les couvres trop, qu'elles se comportent comme ça, elles ne sont pas autonomes, ça suffit maintenant, etc. » Et Laure assiste à tout ça avec un petit sourire parce que pour une fois, on ne parle pas d'elle. Alors je demande à madame, je dis « Mais pourquoi c'est grave pour vous ce qui s'est passé ?» Parce que j'entends bien votre colère, mais elle est forte, donc il doit se passer autre chose derrière. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Et madame, effectivement, fond en larmes et me dit « Je fais énormément pour mes enfants et je ne reçois rien en retour. En plus, mon mari ne me soutient pas, il me critique et notre couple va très mal. » Je lui dis « Mais depuis quand votre couple va mal ?» « Depuis la mort de notre premier enfant. On n'a pas pu se réconforter l'un l'autre. » C'est vrai que j'ai fait énormément pour mes enfants, je les ai couvés sans doute par peur qu'il leur arrive quelque chose, mais j'attendais au moins de la reconnaissance de leur part et du réconfort, et surtout de la part de mon mari. Quand le destin frappe une famille, le traumatisme, on reviendra aussi sur cette question des traumatismes dans 15 jours, la balance de justice se déséquilibre et la spirale du don de façon constructive n'est plus possible. Il se passe alors un phénomène que Nagy va appeler l'ardoise pivotante. Alors, il a des métaphores qui sont du siècle dernier. Hein. L'ardoise, c'est ce qu'on laissait au bistrot ou chez l'épicier, hein, où on notait la dette. Hein. Monsieur un tel me doit le prix de 3 carottes, etc. Voilà. Et il parle de l'ardoise pivotante quand en fait on présente la dette à quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette dette. Hein. On présente la facture à quelqu'un d'autre dans la famille. On est brisé par la vie, on a l'impression que la vie nous doit une réparation, on ne sait pas à qui réclamer cette réparation et donc on risque de la réclamer par exemple à ses propres enfants qui n'ont rien à voir là-dedans. Et donc en fait, très vite je vais me rendre compte que Laure a été tout à fait parentifiée. Hein, sa maman attendait d'elle du réconfort, comme elle dit, d'être consolée du deuil de la sœur aînée de Laure, que Laure n'a jamais connue. Mais quand je fais un diagnostic de parentification, je ne peux pas utiliser ce concept en thérapie familiale. C'est culpabilisant, ça va pas fonctionner. Et donc les outils que Nagy propose d'ardoise pivotante, on va réfléchir à la justice, est-ce qu'on demande de réparer à la bonne personne, qui peut faire quoi, comment on peut se donner des choses justes, les concepts qu'il amène permettent de construire ensemble quelque chose de plus juste sans que les personnes se sentent jugées par un diagnostic. Et donc il s'agit de transformer une légitimité destructive, c'est-à-dire une manière légitime de rétablir la justice, mais d'une façon qui va détruire, hein, par la parentification par exemple, en une légitimité constructive, c'est-à-dire reconstruire de la justice, mais d'une façon qui va être juste au niveau des relations. Alors, la loyauté et ses pathologies. L'application des concepts de Nagy peut se réfléchir dans d'autres domaines que ceux de la thérapie familiale. Par exemple, dans le domaine de l'économie. Si la relation se base sur l'échange de dons, tout va bien. Mais par contre, si la loi du marché est « toi tu prends les ressources de la terre, tu pollues, donc moi aussi j'ai le droit de prendre autant de ressources que toi et de polluer autant que toi », on est dans une logique de légitimité destructive. Hein? Donc on établit la justice d'une façon qui va avoir des conséquences négatives. Dans le domaine politique, il donne l'exemple de la naturalisation et du serment d'allégeance à un pays qu'on demande parfois aux étrangers, aux États-Unis notamment. Ça pose un problème de loyauté par rapport au pays d'origine. Or, la loyauté au pays d'origine, si elle ne peut pas s'exercer, va provoquer des conflits de loyauté qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Notamment, on verra dans le film, le problème de la radicalisation est lié à cette loyauté invisible, inconsciente, qui peut être la source de comportements de légitimité destructive. Lorsque le pays d'accueil, d'adoption, ne permet pas l'exercice concret d'une loyauté par rapport au pays d'origine. C'est la même chose pour les religions. J'ai fait un travail de recherche en clinique pour montrer que les loyautés religieuses agissent comme les loyautés de sang, avec la même force. Alors, dans le domaine de la thérapie familiale, on va parler de loyauté invisible, c'est-à-dire loyauté inconsciente, ou de conflits de loyauté conscient dans les adoptions ou les placements en famille d'accueil. Le phénomène de l'ardoise pivotante va être très fréquent dans les adoptions. On peut très bien voler sa maman d'accueil ou sa maman adoptive sans aucune culpabilité avec le phénomène de l'ardoise pivotante en se disant ben, « ma mère de naissance m'a abandonnée, donc j'ai bien le droit à me servir dans ton portefeuille hein, ». Il y a des logiques comme ça où il n'y a pas de sentiment de culpabilité à cause de ces phénomènes d'ardoise pivotante. Voilà, j'ai déjà parlé du conflit qui pouvait y avoir entre loyauté envers la famille d'origine et loyauté dans le couple. Il y a aussi les phénomènes de loyauté clivée. Hein, donc, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler de l'aliénation parentale dans les divorces. C'est-à-dire, on parle de loyauté clivée quand un enfant, par exemple, de parents divorcés, s'il est loyal à sa mère, a l'impression de trahir son père, ou l'inverse. Hein, donc ça, c'est extrêmement difficile à vivre et ça, c'est une source de stress et d'angoisse importante. Ça peut exister aussi par rapport à la religion. Hein, par exemple, une infirmière chrétienne qui doit faire une injection létale pour l'euthanasie peut se retrouver dans un conflit de loyauté entre ce que lui demande son employeur, la société, et ce que lui demande sa religion. Hein, donc c'est une source d'angoisse et de stress qui peut être très pathogène. Voilà. L'éthique relationnelle, selon Nagy, concerne les relations intimes dans lesquelles les personnes ne sont pas interchangeables. Hein, si j'ai un problème de loyauté par rapport à ma mère, papa pourra m'aider à réfléchir à ma loyauté par rapport à maman, mais il ne pourra pas la remplacer. Hein, donc ça correspond, cette loyauté, à une triple obligation: donner, recevoir et rendre. Pourtant, les problèmes de loyauté impliquent aussi, comme on l'a vu, les pays, les religions, au-delà des relations intimes. Vous connaissez certainement l'histoire de Christian de Chergé, hein, dans le beau film qu'on a fait sur sa communauté. Vous savez sans doute que Christian de Chergé, un musulman, était mort pour lui sauver la vie. Et donc, lui, il désire être loyal et solidaire du peuple algérien jusqu'au bout. Et on voit dans le film des Hommes et des Dieux qu'il est prêt à donner son sang en retour, mais il vit la tentation inconsciente d'impliquer d'autres personnes dans sa dette personnelle. Hein? Et donc il y aura tout ce discernement communautaire où les autres lui renverront que, mais pour eux, ils se sentent peut-être pas en dette par rapport au peuple algérien comme lui s'est senti. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Bernard avec une question qui vient aussi de Nagy. Nagy a écrit beaucoup sur le pardon. Et il considère que le pardon, c'est une remise de dette à quelqu'un. Je reconnais que l'autre m'a lésé, mais je ne lui réclame pas de payer sa dette. Je vais me réparer autrement, sans utiliser l'ardoise pivotante. Mais alors, que dire du pardon chrétien? Est-ce que ce que Nagy dit te parle comme théologien? Et qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet-là?
Bien, je vais commencer par une petite réflexion justement sur la remise de dette dans le Notre Père. Alors, vous savez bien que la cinquième demande du Notre Père, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ça, c'est les mots qu'on utilise pour prier. Mais quand on regarde l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, qui sont les deux seuls où il y a le Notre Père, c'est pas tout à fait ça. Vous avez ça sur votre feuille de route, hein, c'est textuellement en Matthieu 6, verset 12, « Remets-nous nos dettes !» Justement, c'est « Remets-nous nos dettes !» comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Donc vous voyez que le mot péché, le mot offense, n'est pas là, le mot pardon non plus. Hein. C'est vraiment la métaphore qu'utilise Nagy, hein, qu'on a spiritualisée, si j'ose dire. Hein. Alors bien sûr, dans Saint-Luc, nous avons « et remets-nous nos péchés ». Alors là, c'est le mot péché, à martyr. Mais on continue « comme nous-mêmes remettons à qui nous doit ». Et voilà, la dette est de nouveau bien présente. Donc si on regarde les deux petits versets là que je vous ai mis, eh bien, par exemple, « péché vient une seule fois ». Comme tel, « pardon » ne revient pas. Hein? La dette revient plusieurs fois. Il y a dette, il y a débiteur, il y a quiconque nous doit. Ça revient trois fois, la question de la dette. Et le pardon non plus, d'une certaine manière, ne revient pas. Hein. Littéralement, c'est remettre. Et même remettre est déjà un peu un peu au-delà du sens, c'est laisser tomber, laisser aller. Af iemi, envoyer loin, congédier. C'est congédier, laisser tomber, laisser partir loin. Laisser partir loin les dettes que vous avez ou que les gens ont vis-à-vis de vous. Donc je dirais qu'au fond, la métaphore qu'utilise Nagy, c'est très intéressant de voir quelqu'un qui dans la clinique utilise non pas des concepts abstraits, mais des métaphores. Et lorsque la métaphore du livre des comptes est trop statique, il en trouve une autre, c'est celle de la balance, qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intuitive. Tous les enfants peuvent comprendre qu'une balance, ben, ça balance, quoi. Hein. Et il n'y a pas besoin de faire des sommes et des calculs. Hein. Ça, voilà, on met plus de poids ici que là. Ben, on voit que, en fait, c'est une métaphore tout à fait chrétienne. Et je ne vais pas dire plus chrétienne que le Notre Père que nous récitons, je n'irai pas jusque-là. Mais vous voyez quand même que dans le Notre Père, nous avons un peu... éloigner cette métaphore qui nous semblait peut-être trop mercantile ou bien trop banale, hein. Mais voilà, les juifs et les grecs traduisaient ça de manière très simple, hein. Remets-nous les dettes, laisse tomber ma dette, quoi, hein. Voilà, je trouve que ça c'est quand même une observation assez intéressante. Et je ne sais pas comment vous ressentez le Notre Père, hein. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bon, le plus important quand même, quand je prie, c'est que Dieu me pardonne, quoi. Hein. Alors bon, je ne dois pas oublier que je dois aussi pardonner à mes frères, puisque je le dis, hein, comme seconde phrase, mais quand même, l'essentiel, c'est que Dieu me pardonne. Hein. C'est pour ça que je prie. Mais je crois que là aussi, on peut se dire que c'est un peu une mauvaise interprétation du Notre Père, parce qu'il y a quand même le parallèle. Hein, le vrai parallèle entre le pardon que Dieu me donne et le pardon que nous nous donnons les uns aux autres, comme d'ailleurs nous nous donnons la main souvent en récitant le Notre Père, hein. On ne donne pas la main à Dieu, hein. Oui, on peut lever les mains vers Dieu, mais on donne parfois la main à la messe, hein, aux autres, pour dire que c'est les uns avec les autres que nous disons Notre Père. Même si on le dit tout seul, on dit Notre, on ne dit pas Mon Père, hein. On ne dit pas Notre avec les autres et puis Mon Père quand on est tout seul, on dit Notre. Donc la dimension systémique, dirais-je, hein, de la prière, là, est vraiment bien indiquée. Alors, pour continuer à réfléchir sur le concept, par exemple, de légitimité destructive, d'ardoise pivotante, etc., je reprends les quatre niveaux anthropologiques. Alors, ce schéma-ci, en fait, vous l'avez déjà eu une fois, dans la première leçon, mais je vais le compléter par le schéma suivant. Mais je vous le remets sous les yeux pour vous rappeler que ce schéma est vraiment très utile. C'est vraiment pour moi la base d'une réflexion anthropologique. Je vous rappelle le corps, le psychique, psychisme, le niveau rationnel qui se décline en intelligence et volonté, et le niveau spirituel qui est le niveau de l'esprit, de la liberté, mais pour un chrétien c'est la liberté et la grâce. C'est la liberté et la grâce. C'est là où l'homme, l'être humain, communie vraiment avec Dieu, l'esprit de Dieu et l'esprit humain, ensemble, eh bien, sont libres. Voilà, et on peut définir le bien et le mal un peu à chacun de ces niveaux. Pour la santé, comme je vous ai dit, là, pour le corps, c'est la santé, la vie, ça c'est le bien, tandis que la mort, la maladie, la blessure, c'est le mal. Au niveau psychique, c'est le bien-être, opposé au dysfonctionnement, ça veut dire... un psychisme un peu paralysé, répétitif, pas créatif, dans un mal-être. Au niveau rationnel, le vrai et le bien, opposé à l'erreur, au mensonge, à la faute morale. Et enfin, l'amour au sens de agapé et le péché au sens de, plus qu'une faute morale, hein, puisqu'on est face à Dieu. Alors, il me semble que les concepts de Nagy nous aident à approfondir au moins deux choses dans ce petit tableau. Je vous avais expliqué qu'il y a une différence, hein, entre la faute morale et le péché. Vous vous souvenez de cela? Donc la faute morale est un concept plutôt philosophique. L'homme n'a pas besoin de révélation, n'a pas besoin de Dieu pour savoir qu'il est capable de faire le bien et il est capable de faire le mal. C'est une grosse erreur de croire que ceux qui n'ont pas de Dieu, hein, sont des êtres immoraux. Et le chrétien, bien sûr, a déjà cette morale, je dirais, toute humaine, hein, et en plus, eh bien justement, il a une loyauté supplémentaire, pas seulement vis-à-vis de ses frères et sœurs en humanité, qui lui fait qualifier ses actes comme des actes bons ou des actes mauvais, des fautes morales, mais il a une loyauté supplémentaire qui est vraiment de l'ordre relationnel avec le Christ, avec Dieu. En effet, eh bien, le Christ est pour nous quelqu'un qui a fait alliance avec nous, Dieu depuis l'Ancien Testament, mais en Jésus-Christ davantage encore, et nous faisons alliance avec lui en retour, et donc nous nous situons, par exemple, par le baptême, bien sûr, mais par les autres sacrements, la confirmation, le mariage, le sacrement de l'ordre, etc., nous nous situons dans une alliance toujours plus forte avec lui, et je dirais que nos actes, eh bien, sont vécus dans cette loyauté par rapport à cette alliance. Voilà, si on a le sens de la loyauté, eh bien, quand on fait quelque chose contre nos engagements par rapport au Christ, nous le sentons aussi comme quelque chose à corriger, voilà, quelque chose qui finalement nous attriste, nous fait mal. L'erreur psychologique, vous vous souvenez qu'on avait mis ce concept-là entre le bien et le mal, parce que c'est faire le bien en c'est faire le mal en croyant qu'on fait le bien, hein, donc je gâte mon enfant en croyant lui faire du bien, mais en fait, à long terme, ce ne sera pas si bien que ça. C'est un exemple banal, mais je crois que c'est un exemple qui fait bien comprendre. Eh bien, l'erreur psychologique aussi, l'agit passe son temps à les débusquer. Hein. Quels sont les faits, les vrais faits, hein? Est-ce que vous avez parlé à votre frère, à votre sœur de cette jalousie que vous aviez, etc. Ah non, non, j'ai jamais voulu en parler, et puis 20 ans après, je lui en veux toujours, je suis jaloux, mais je ne suis jamais entré dans la réalité, hein, d'une discussion quand j'étais enfant ou adolescent, ou même adulte, pourquoi pas, pour voir comment l'autre me perçoit, et comment je perçois l'autre en miroir, hein? Parce qu'on se souvient toujours très bien, hein, des torts qu'on nous a faits et des manquements qu'on a eus, hein, et des biens et des bonnes actions qu'on a faites, mais on oublie parfois que l'autre a la vision inverse. Hein. Ce n'est pas évidemment les mêmes faits, mais parfois même sur les mêmes réalités, il y a une interprétation très différente entre les frères et sœurs, par exemple. En tout cas, moi je constate souvent en famille qu'en discutant avec mes frères et sœurs, eh bien, on doit vraiment ajuster, hein, notre manière de voir. Les uns ont perçu un événement comme relativement positif ou indifférent, et les autres comme vraiment grave, négatif et tout. Et en discutant, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi et on peut entrer dans le point de vue de l'autre et se rendre compte qu'on n'est pas le si bon que ça, hein. Peut-être pas non plus le si mauvais que ça, hein. Mais les autres non plus. Voilà donc cette discussion sur les faits et la compréhension, hein, systémique de nos alliances, de nos appartenances, dans la communication, etc. Et comment est-ce que les balances, eh bien, sont perçues par les uns et les autres. Je crois que c'est un apport que nous pouvons certainement, disons, accueillir. Alors, en psychologie religieuse, c'est le troisième point, des gens ont étudié la culpabilité. Parce que certains ont dit, oh là là, la religion, hein, la religion, ça c'est la grande fabricatrice, hein, de la culpabilité. Maintenant, l'homme doit être libre, ça veut dire d'abord se débarrasser de sa culpabilité. Bon, c'est un discours, hein, il est interdit d'interdire, voilà, il faut se sentir libre et tout ça. Alors, je crois que quand on étudie un peu la psychologie, on se rend compte que le psychisme humain n'a pas besoin de la religion pour fabriquer de la culpabilité. Hein. On en fabrique au niveau psychique, on en fabrique au niveau rationnel, on n'a pas besoin d'un surmoi religieux pour venir nous donner ça. Mais justement, en psychologie religieuse, ici donc je me situe à la fois comme psychologue, si on veut, et comme spirituel, eh bien, nous nous rendons compte qu'on peut étudier la culpabilité à différents niveaux. Et de nouveau, là, apparaissent les quatre niveaux dont je vous parle. Au niveau corporel, j'ai mis en parenthèse malaise, irritation, j'en parlerai plus tard. Au niveau psychique, la culpabilité se manifeste comme un remords. Comme un remords. Le remords est quelque chose de psychique. Au niveau rationnel, la culpabilité se manifeste comme un repentir. Il y a davantage de raison, on a réfléchi, hein, on a jugé. Et enfin, au niveau spirituel, la culpabilité se manifeste comme quelque chose de l'ordre de la contrition. De la contrition. Alors voilà, je vais un peu développer ces trois aspects. Et puis je reviendrai, si je n'oublie pas, à la question du malaise et de l'irritation. Le remords. Qu'est-ce que c'est le remords ? Alors réfléchissez un peu à vous-même ou bien à des romans que vous avez lus, Crime et Châtiment, des trucs comme ça, enfin bon. Le remords, c'est quelque chose de très profond dans notre psychologie qui nous met mal à l'aise. C'est quelque chose qui nous taraude, qui nous pince, qui nous ronge, enfin on a toutes ces expressions qui sont d'ailleurs physiques. Hein. Et on ne sait pas s'en débarrasser, ça nous colle à la peau, c'est à l'intérieur de nous, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, on est tout à fait mal à l'aise quand on a fait quelque chose de grave, par exemple. Hein. Mais aussi, par parenthèse, quand on a subi un mal, c'est pour ça que j'ai mis réaction au mal commis ou subi. Parce que paradoxalement, on peut aussi avoir une culpabilité qui se développe quand on a été victime du mal. Mais prenons d'abord quand on a commis un mal. Eh bien, le remords est un sentiment comme ça, affectif, passif, tourné vers le passé. On dit « Oh, pourquoi est-ce que ça a dû se passer? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» etc. Bon. C'est une douleur cuisante après un acte coupable. Mais ce n'est pas un acte moral. On ne sait pas se débarrasser de la culpabilité, on ne sait pas la culpabilité du remords. Ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit. C'est quelque chose qui nous envahit. Hein. Par le remords, on ne prend pas distance, justement, par rapport à ces actes mauvais. Je parle ici, évidemment, hein, pour une conscience, entre guillemets, normale. Hein, pour une conscience qui est sensible au mal. Hein. Il peut y avoir, bien sûr, des pathologies où on ne sent pas la culpabilité. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la perversion. Mais ce n'est pas le sujet. Ici, je parle de quelqu'un qui est, disons, relativement équilibré au niveau de sa conscience psychologique et morale. Et voilà, donc, par le remords, le moi ne prend pas distance par rapport à ses mécanismes inconscients et se sent identifié et livré hein, à ce tourner en rond, cette répétition du remords. Le remords, c'est la faute elle-même, non résolue, qui détruit le sujet. Dans certains romans, hein, bien, on remarque ça. Ça, c'est le remords. Tandis que le repentir, et justement, il faut les contraster pour bien comprendre la différence, le repentir est tout différent. Le repentir, il est de l'ordre de la raison. Par le repentir, ben, on réfléchit. On réfléchit, on se juge. On se juge soi-même, comme si on était un autre. Alors que le remords, on colle à sa faute. Hein, on n'est qu'un seul, il y a une fusion entre moi et ma faute. Dans le repentir, je prends distance. Pas pour dire ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais au contraire pour dire voilà, c'est bien moi qui l'ai fait, je me juge coupable, je me constitue responsable, mais je ne m'identifie pas à ça. Je ne suis pas que cela. J'ai fait cette chose qui est grave, voilà, mais je le mets à distance et je dis c'est ça que j'ai fait, c'est pas autre chose. Tandis que dans le remords, on ne sait plus ce qu'on a fait, tout est mauvais, on se sent coupable de tout. Voilà, là, on se juge coupable, on se constitue en responsable, on reconnaît clairement sa faute devant soi-même, devant un autre. On la désigne comme étant la source de cette angoisse de culpabilité, du remords qu'on avait auparavant. Donc on peut évoluer hein, du remords au repentir. On s'arrache dès lors à l'identité « je suis ma faute ». On s'y arrache. « Je ne suis pas ma faute. J'ai commis cette faute, oui, mais cette faute, bon, elle est en partie de moi, en partie à l'intérieur, mais elle est en partie aussi quelque chose d'extérieur que je peux mettre à distance. De quelle manière? Eh bien, en la reconnaissant et en décidant de ne plus le faire, en faisant un effort, en prenant les moyens pour ne plus le faire, en prenant en compte aussi ce qui a été fait et en le réparant. En le réparant éventuellement auprès de la victime, en disant une parole, voilà, en ayant ce ferme propos d'avoir un avenir différent, d'avoir un avenir différent. Le remords me fait ressasser le passé, tandis que le repentir me met au présent, je suis coupable de ça, je suis responsable, et m'ouvre un avenir différent que celui de tourner en rond dans cette faute. Voilà, je reconnais ce passé mauvais, mais je vais essayer de l'intégrer dans une réparation et un avenir qui sera meilleur. Cette décision du repentir implique évidemment un acte lucide de la raison, de l'intelligence, et vraiment un acte de la volonté. On doit décider quelque chose. Si on dit « je me repens, mais je ne fais rien », c'est pas vraiment le repentir. Je me repens, mais tout continue comme avant. C'est pas vraiment le repentir moral. On décide de remanier des choses qui sont en soi, et qui nous empêchent d'être meilleurs, ou qui nous font tourner en rond dans ce remords. Alors je crois que par le travail psychique et rationnel sur la faute qu'on a faite, on peut identifier certains mécanismes de défense par lesquels on voulait fuir la reconnaissance de cette faute. Alors je vous ai mis là, en plus petit, certains mécanismes de défense habituels. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons que peu de repentir du mal que nous avons fait et que nous ne cherchions pas tellement à réparer et que ça passe et puis on continue? Il y a le mécanisme de minimisation, de négation, de disculpation. Oui, j'ai fait ça, mais tout le monde le fait, ou bien c'est pas si grave, ou bien Par amour narcissique, on ne veut pas prendre sur soi cette image un peu plus négative de soi. On minimise. Ou bien on compense. On fuit dans l'alcool, dans le travail, dans toute activité absorbante. On dit, il y a ce truc qui me tracasse, etc. Mais maintenant, je vais foncer dans mon boulot. Je ne pense plus à rien d'autre. Je fais ce travail et je me détache de ce remords. Alors, ce n'est pas toujours mauvais, vous savez bien que par exemple au Chenakolo, on met les gens au travail physique, pour qu'en effet ils prennent distance par rapport à certains mécanismes psychologiques qui les empêchent de se sevrer de leur drogue. La projection, ça c'est aussi un mécanisme de défense très habituel pour ne pas reconnaître sa faute. On accuse les autres. Et en groupe on a le bouc émissaire. Ensemble, nous avons le mécanisme du bouc émissaire. La simple médisance coutumière quotidienne peut produire un effet de défense projective. Je passe mon temps à dire du mal des autres, donc ça veut dire que moi, au fond, je ne suis pas si mauvais, Puisque regardez tout ce que les autres font de mal, ça me rassure par rapport à ma propre culpabilité. L'abdication, on transfère à d'autres sa conscience morale. On dit, moi je m'en sors plus de ce qui est bien, ce qui est mal ici, dites-moi ce qu'il faut faire, et j'entre dans un groupe, dans une secte éventuellement, et je demande au gourou de me dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. La rationalisation, les théories explicatives. Il y a les gens qui commencent à faire des grandes explications, vous leur dites pourquoi tu as renversé ta tasse de café, c'est parce que regarde, l'autre avait fait ça, il a mis ça là, or tu sais bien que cette machine ne marche pas, or etc. Et je l'avais dit depuis longtemps et tout. Et finalement, c'est pas lui qui a renversé la tasse de café. Tout le monde l'a vu pourtant, mais ça remonte de très loin. Le coupable est très lointain, la théorie est très logique. Moi, je connais comme ça l'une ou l'autre personne qui ont vraiment de la peine à reconnaître une erreur qu'ils ont faite, ou même quelque chose de très minime, très minime. Extrêmement minime, parce que ça va les déstabiliser complètement, ça va avouer sa faute, c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour certaines personnes. Et parfois, en confession aussi, on rencontre des personnes qui viennent avec un désir plus ou moins sincère, sans doute, de se confesser, mais qui expliquent que finalement, c'est la faute de tous les autres. Et si les autres étaient meilleurs, moi je serais un saint, Ça, c'est très probable. C'est très probable. Alors, pour avouer, et ça c'est aussi une dimension un peu systémique, dirais-je, pour avouer, il faut avoir reçu une certaine éducation où l'aveu d'une erreur, d'une faute, est quelque chose qui n'est pas si grave que ça. L'enfant qui est aimé par ses parents peut se risquer à avouer ses fautes, car même fautif, il pense qu'il restera aimé de ses parents. Mais évidemment, si on se ramasse une grande colère, une grande punition parce qu'on a cassé une assiette, évidemment, on nie l'évidence. Hein. On vient de la casser, mais ce n'est pas moi qui l'ai cassée. Non, non, on nie l'évidence. D'ailleurs, par parenthèse, c'est très amusant de voir que les enfants, par exemple, ont un sens moral qui évolue. Hein. Il y a un certain Colbert qui est dans la ligne de Piaget qui a étudié cela. Donc, vous demandez à un enfant, c'est plus grave de casser une assiette ou 10 assiettes? Eh bien, ça dépend de l'âge hein, qu'ils ont. Les plus petits diront toujours, ah ben c'est plus grave de casser 10 assiettes, évidemment. Hein. Mais quand ils ont un peu évolué, ils diront, qu'est-ce qu'ils diront? Ben, ça dépend si on l'a fait exprès ou pas. Hein. Si on a cassé 10 assiettes pas en exprès, bon, mais une assiette exprès, ça c'est grave. Hein. Ça c'est grave. Donc l'intention s'ajoute. Hein. Il n'y a pas que l'objet, il y a l'intention. Et on voit comme ça que les enfants, avec l'âge, eh bien, ajoutent des données, hein, des paramètres à, au jugement de leur acte moral. Mais évidemment, si dans une famille, c'est toujours hein, la quantité de mal qui a été fait qui engendre une punition de plus en plus grande, évidemment, on va toujours minimiser. Hein. On va toujours chercher à ne pas avouer. Voilà, un vrai repentir aussi implique qu'on accepte une sanction. La sanction est normale. Moi, j'ai travaillé, je vous l'ai peut-être déjà dit, j'ai travaillé 1 an dans une prison à Leuven Central comme psychologue. Et eh bien, je rencontrais des gens qui trouvaient que c'était injuste, évidemment, ce qu'on leur avait collé comme peine, mais d'autres trouvaient que c'était juste. Hein. Et ils voulaient faire leur peine jusqu'au bout. Voilà, ils avaient ce sens. Voilà, c'est normal, hein, j'ai fait le mal, eh bien c'est normal. D'autres, évidemment, le nient complètement. Hein, complètement. Alors, hein, une grande règle en prison, si un jour vous y allez, hein, il faut tout mettre sur le dos du mort. Hein. Quand on est 3 à faire un hold-up et qu'il y en a un qui meurt dans le hold-up, c'est lui qui a tout machiné. Hein. C'est lui qui a tout machiné, voilà, c'est lui le coupable, nous on l'a bêtement suivi, et voilà ce qui est arrivé, quoi. Hein. Il faut tout mettre sur le dos du mort. Alors, dans un vrai repentir, on désire aussi réparer. On a conscience qu'on a fait quelque chose de mal et on veut réparer. Alors, la contrition, qu'est-ce que c'est? C'est encore quelque chose de plus fin, dirais-je. La vraie contrition provient davantage encore de la conscience de la fidélité de Dieu, alors que moi, je ne suis pas fidèle. De la fidélité miséricordieuse de Dieu et de ma conscience d'être infidèle, déloyal par rapport à cette alliance qu'il m'a proposée et que j'ai acceptée. Le chrétien pardonné sait qu'il ne dépassera jamais totalement hein, une certaine culpabilité, mais il ne se tracasse plus pour cela. Cette culpabilité s'approfondit, se pacifie dans une délicatesse de l'âme. Pour la religion, qui est à la fois le sommet de l'exigence et de l'espérance, la culpabilité est le sens authentique du péché, vécu comme un moyen de reconstruction permanente de soi dans la relation à Dieu et au prochain. Chaque vraie contrition, où on se sent, disons, vraiment pris par cette tristesse, implique une nouvelle conversion. Une vraie contrition nous fait nous convertir, pas seulement la résolution de faire mieux à la prochaine fois, comme ça on aura plus de bons points, non, c'est pas ça, hein. Mais d'être plus ouvert à Dieu, plus ouvert au prochain. L'expiation et la réparation prennent un sens de plus en plus positif. C'est pas seulement réparer la faute, mais c'est devenir l'ami de la personne qu'on a offensée. Hein. Renouer un lien qui a été blessé par notre faute, et prier pour cela, hein, pour que vraiment cette personne aussi soit touché par notre désir de rapprochement. Et au fond, ça fait grandir en nous non plus le désir d'éviter le mal, mais de faire le bien. Et ça nous transforme en une personne de plus en plus capable d'opérer le bien. Pas simplement d'éviter les péchés, hein, mais d'opérer le bien, de faire le bien. Voilà, mais ces réflexions, peut-être qu'elles sont encore trop individualistes. Est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre dans un contexte plus systémique, hein, plus relationnel? Ce mot de éthique relationnelle que Dominique a prononcé plusieurs fois à la suite de Nagy me semble très important. Je trouve que dans la morale chrétienne, telle que l'on l'enseigne classiquement, il y a la morale individuelle, puis il y a la morale sociale, et je crois qu'elle est excellente. Il y a peu d'institutions qui produisent un corps de doctrine sociale aussi solide que la morale sociale de l'Église. Mais je trouve qu'entre les deux, il manque un peu quelque chose. Il y a la morale individuelle, chacun doit être bon, il doit aller se confesser, tout ça, mais voilà, une éthique relationnelle, institutionnelle, je trouve que cela, ça vaudrait vraiment la peine de le développer. Et dans les réflexions que je vous ai faites sur le remords, le repentir et la contrition, je crois qu'on pourrait vraiment essayer d'insérer une dimension relationnelle. Je crois que dans les mécanismes de défense, il y a déjà quelques pistes. Dans l'acceptation d'une sanction, dans la réparation, évidemment, il y a des pistes. Et la confession, voilà, je vais terminer avec cela, la confession du point de vue du pénitent. Je crois que la confession, ce n'est pas une grande lessive, de laquelle on sort plus blanc que blanc, et puis voilà, donc à partir de maintenant, on recommence à zéro, tout va bien, etc. Je crois qu'il faut davantage inscrire la confession dans une évolution de sa propre vie chrétienne. Chaque confession est un moment de la vie chrétienne. Ce n'est pas comme un moment isolé qui va tout changer, espérons-le, mais on n'y croit quand même pas trop. Et à partir de maintenant, il faut rester blanc plus que blanc. Et puis, évidemment, le lendemain, ça ne marche pas déjà. Alors, on est reparti pour une autre confession, mais cette autre confession n'est pas liée à la première. Bien sûr, la confession, c'est un moment ponctuel avec quelqu'un, donc avec un intermédiaire dans une relation avec le prêtre, avec Dieu qu'il représente. Mais c'est aussi un moment de ma vie, pour entrer toujours davantage dans la lumière, dans la vérité, éviter, vouloir sortir de ce mensonge que nous nous racontons tous, toujours un peu plus ou moins, lorsque nous nous parlons tout seuls. Lorsqu'on se parle tout seul à soi, il y a quand même petite masse de mensonges qu'on se fait en sachant un petit peu qu'ils sont des mensonges, mais quand personne ne nous contredit, on continue. on a quand même raison, et puis quand même, c'était pas si mal que ça, tout ça. Voilà, assumer la responsabilité de ce qu'on est face à un autre, face à Dieu, face à sa propre histoire dans son déroulement chronologique. Et je crois que la confession régulière, donc l'Église nous propose de nous confesser au moins une fois par an de nos péchés graves, je crois que c'est déjà une indication très, très minime sans doute que c'est une histoire d'évolution spirituelle et de croissance spirituelle si possible. C'est une histoire d'un combat spirituel constant, éprouvant parfois, mais aussi peut-être qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir. Et je crois que finalement, c'est un instrument, si j'ose dire, de progrès et d'approfondissement de soi-même extraordinaire que la confession, lorsqu'elle est faite, je dirais, avec une certaine régularité. Je ne dis pas qu'il faut se confesser tous les X temps, c'est pas ça que je veux dire, mais lorsque, on ne sort pas de la confession en se disant « j'espère qu'il n'y en aura plus jamais aucune ». Non, au contraire, on dit la prochaine fois, on reprendra tout ce travail et on essaiera d'être encore plus sensible au bien qu'on peut faire et qu'on n'a pas encore tout à fait fait. Et donc, l'accusation de la religion qui nous culpabilise, moi je la retournerai en disant, par la confession, il y a un merveilleux instrument de travail psychique, intellectuel, moral et spirituel, justement, de notre culpabilité. Cette culpabilité ne nous est pas inoculée par la religion, au contraire, la religion nous propose un chemin pour, non pas supprimer notre culpabilité, c'est très grave de n'avoir aucune culpabilité, il ne faut pas non plus l'augmenter, trop c'est aussi mauvais, trop et trop peu c'est aussi, dans les deux cas pathologiques, mais pour avoir ce juste équilibre entre le souci de ne pas faire le mal et surtout le grand désir de faire le bien en relation avec le Christ et nos frères et sœurs. Amen. Thank you.